I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Moi, j'entends pas la musique.
A few moments later.
Non, mais, le son d'un
d'accord. Ma carrière d'acteur tout court.
C'est good contact on my board.
Two hours later.
J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut. C'est Nos Ciné. Ah, je m'entends pas.
Si je m'entends pas, je peux pas le faire.
Bon, mais on peut bosser ou. Oui, ou merde.
Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Six and a half hours later. David Honora, salut David.
Salut, je ne t'entends pas.
Mais oui, on t'entend pas en fait.
On ne t'entend pas.
J'entends rien en fait. Je fais tout à la
vague. On a que la musique à balle. On est à balle. Mais nous rien. Et puis à balle le truc.
Mais tu peux pas nous mettre le même retour que toi.
One eternity later.
Binge.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, tout petit déjà, regardait avec attention les étoiles, mi-fasciné, mi-inquiet, et se demandait à quoi tout ça pouvait bien ressembler de plus près. Un intérêt décuplé par sa cinéphilie, tant il est vrai que le merveilleux monde du 7e art explore depuis bien longtemps déjà l'espace, l'ultime frontière et les cieux infinis. De l'indépassable 2001 à Gravity, en passant par Apollo 13 ou bien évidemment Star Wars, la conquête spatiale est un sujet récurrent d'aventures filmiques, qu'elles soient purement fantastiques ou volontairement réalistes, comme c'est le cas par exemple avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, dont on va causer là tout de suite avec un trio d'astronautes de la critique. David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
First Man, donc, sous-titré en français Le Premier Homme sur la Lune, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, puisqu'il y est question de Neil Armstrong, entré dans l'histoire un certain 21 juillet 1969 en devenant le premier homme à poser le pied sur cette bonne vieille lune, un fameux grand pas pour l'humanité à jamais associé à ce bonhomme plus complexe qu'il n'y paraisse, en tout cas ce que veut nous raconter Damien Chazelle en traçant le portrait intime derrière la légende.
Are you sure?
Yeah. Be an inventor.
First man to walk on the moon. That'd be something.
We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch.
Go in throttle up.
Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon.
Et au casting, dans le rôle principal, on retrouve Ryan Gosling, mais aussi Claire Foy ou encore Jason Clarke et Kyle Chandler. Et pour ce qui est de Damien Chazelle, au cas où vous l'auriez oublié, on lui doit notamment Whiplash et La La Land, auxquels nous avions d'ailleurs consacré une émission. Votre avis sur ce First Man, les amis? Tiens, David, tu vas commencer.
Bah oui, alors comme tu le disais en introduction, on s'attaque quand même à un gros morceau. En tout cas, Damien Chazelle s'est attaqué à un gros morceau parce que c'est vraiment, à mon sens, un sujet en or. D'abord parce que, je dirais pour l'humanité, finalement, la conquête spatiale, si on croit pas en Dieu et qu'on crève pas trop la dalle, c'est peut-être un des rares trucs qui peut donner du sens à l'existence. En fait, oui. D'aller voir ce qui se passe là-haut et du coup la conquête spatiale dans les années 60 par la NASA qui aussi était motivée par des enjeux politiques pendant la guerre froide
et de répondre à la conquête russe,
voilà, d'être plus rapide que l'Union soviétique, c'est quelque chose d'assez fondamental dans l'imaginaire collectif et en particulier dans le cinéma, parce que comme tu l'as dit, la Lune en particulier, d'ailleurs, dès Méliès et le voyage dans la Lune, jusqu'à ce qu'on y arrive vraiment. Et l'année d'avant, c'était 2009, l'Odyssée de l'espace. Voilà, ça a été quelque chose de, dès les débuts, très présent dans le cinéma et qui ensuite est devenu complètement fondamental dans l'imaginaire avec des films comme Star Wars, etc. Dans ce contexte-là, c'est de base le terrain pour faire un film important. En tout cas, le sujet est très important. Et Damien Chazelle, en fait, se retrouve avec ce sujet dans la foulée du succès de La La Land, de fait d'avoir reçu l'Oscar du réalisateur. Je crois que le film, au dernier moment,
on ne l'a pas eu.
On s'est rendu compte qu'il l'a pas eu.
En fait, c'était pas lui.
Je trouve que sur le papier, l'angle, l'approche intime est vraiment intéressante, mais à mon sens, ça ne fonctionne pas parce que justement les personnages qui entourent Neil Armstrong, sa femme et ses enfants, qui sont vraiment des personnages en soi intéressants, sont à mon avis sous-écrits et mal exploités. Y a un arc narratif très important sur l'ensemble du film, c'est la mort de la fille du couple Armstrong, qui survient au début du film, et à la suite de laquelle ils décident en fait de se lancer en premier lieu dans le programme Gemini, qui va ensuite donner lieu au programme Apollo. Et qui est, en gros, il a besoin, et ça rejoint à ce que je disais, il a besoin de trouver un sens à son existence, et il se dit on va se donner un objectif, et ça va être ça, et c'est ce qui va asseoir son en tout cas donner du lien dans sa vie, alors que lui il est complètement paumé. Je trouve que le personnage de Ryan Gosling est en ce sens assez intéressant. On découvre pas mal de choses sur lui et on arrive à le comprendre, même si c'est parfois pas forcément raccord, notamment la fameuse première réplique qu'il fait en marchant sur la Lune, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Elle paraît pas du tout raccord avec le personnage. C'est au moment où il l'a dit dans le film, on comprend pas pourquoi le personnage qu'on nous a montré pendant une heure et demie dit cette phrase, comment il l'a préparé ou quoi que ce soit. Et ce que je trouve dommage, c'est que il a aussi deux autres fils qui sont, mais alors, ils sont pas écrits quoi. Enfin, les enfants n'ont aucun intérêt. On les voit un peu graviter, faire des trucs, et ils sont pas écrits. On avait un gros problème. Et sa femme, un personnage hyper intéressant, je trouve, Claire Foy, moi, que je découvrais, qui a pas fait énormément de films, elle vient de recevoir l'Emmy pour The Queen, que j'ai pas vu.
The Crown, pas The Queen.
The Crown.
Parce qu'elle joue la Queen.
C'est ça.
Et The Queen, c'est Hélène Mirren. Mais on y
va. Pour moi, c'est une découverte. Enfin, sur quelques scènes, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment une très bonne actrice. Mais j'aurais aimé que son personnage soit plus creusé. Et qu'on ait un petit peu plus de biscuits autour d'elle et autour des enfants. Et voilà. Après, il y a un autre aspect du film qui est très réussi et qui fait un peu la suite de ses précédentes réalisations, c'est la musique, qui est encore une fois composée par Justine Hurwitz, je crois que c'est son nom, et qui est extrêmement efficace, notamment dans une des scènes importantes du film qu'il fallait pas louper, c'est la scène de l'alunissage.
Oui.
Et où la musique joue un rôle vraiment très important. Je trouve la scène réussie beaucoup grâce à ça. Et voilà, donc pour moi, c'est un film qui prend vraiment pas beaucoup de risques. Peut-être parce que justement le sujet était trop gros, trop important, qui est vraiment calibré pour la saison des Oscars, etc. Mais qui aurait pu être beaucoup plus intéressant sur ce sujet.
Périne ?
Moi, je trouve le film vraiment. Personnellement, j'ai été complètement. J'ai adoré. Voilà, c'est pas un truc critique de dire ça ou quoi que ce soit, mais vraiment, moi, j'étais complètement emballée par le film. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport au personnage de Claire Foy. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un peu le problème. Pour moi, le seul problème du film, il est là, c'est sur le personnage de Claire Foy. Elle est super. Et chaque scène qu'elle joue, elle vole pas la vedette, mais au moins elle est là, elle est clairement là, et elle a quelques scènes sur la fin du film notamment, où d'un seul coup son personnage reprend une forme d'importance qui est un petit peu effacée tout le long. Mais en même temps, c'est aussi un peu le propos du film. C'est-à-dire, c'est pas le propos du film, mais c'est-à-dire qu'on est dans les années 60, la place de la femme, elle est pas forcément ultra développée. Et notamment dans ce programme spatial où clairement tout est focalisé sur les hommes, les femmes sont absentes du film. Elles sont les femmes à la maison. On voit même pas les femmes qui travaillent à la NASA ou ce genre de choses. Il y en a quasiment pas. Et c'est réel aussi. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas une place aussi prépondérante dans la société. Donc d'une certaine façon, il y a une certaine logique là-dedans, même si c'est un peu dommage sur le personnage de Claire Foy en l'occurrence, puisque c'est aussi une histoire de couple. C'est une histoire très personnelle. Le film après s'inscrit vraiment dans la suite logique du travail de Damien Chazelle, en fait, c'est-à-dire pas autant de du côté de la mise en scène, qui pour le coup est assez différente de La La Land par exemple, mais sur ses personnages. Parce que si on prend le personnage central de Whiplash, le personnage que jouait déjà Ryan Gosling et même un petit peu Emma Stone dans La La Land, et ce personnage de Neil Armstrong, c'est des gens qui sont ultra passionnés, ultra focalisés, à la border autiste en fait. Il y a quelque chose où d'un seul coup c'est des personnages qui vont pas s'ouvrir au monde, qui vont être plutôt en contre le monde, dans un monde intérieur, et qui vont se priver du contact des autres, l'un avec sa batterie et dans cette espèce de concours qu'il a avec son prof, comment il s'appelle, je sais plus le nom du personnage dans La La Land, mais Ryan Gosling dedans, qui est obsédé par sa vision du jazz au point d'être incapable de la communiquer. Et là on a ce personnage, oui.
D'ailleurs, si je peux juste ajouter un truc, il y a une scène similaire en fait entre Whiplash et j'y pense maintenant, et First Man, sur la manière dont il sort d'un accident et qu'en fait on suit le personnage qui vient d'avoir un accident très grave et qui limite effectivement de manière autiste, refermée sur lui-même, un peu défiguré avec le sang, continue à avancer
parce qu'en fait il est plus dans son corps, il est complètement dans son esprit. Et c'est ça qui est assez intéressant sur ce personnage, parce qu'il donc en effet le drame de départ c'est la mort de la petite fille. C'est pas un spoiler, hein, ça arrive très rapidement dans le film. Et au fur et à mesure, bah, évidemment, la conquête spatiale, la fameuse guerre des étoiles de l'époque, ne s'est pas faite sans quelques pertes. On ne fait pas la omelette sans casser des œufs. Et des gens y ont laissé leur peau, hein, Apollo 9 notamment, on s'en souviendra. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des pertes, au fur et à mesure du danger, le personnage va de plus en plus se refermer pour ne pas être en contact avec cette réalité des sentiments. Et pareil, il va se fermer à sa famille, à ses fils. C'est pour ça que je trouve que l'effet que les fils soient pas écrits, ça me dérange pas, dans le sens où ce personnage n'est jamais en contact avec eux. Il est jamais en lien avec ses gamins, parce que de toute façon, à un moment où il a perdu sa fille, il a d'une certaine façon perdu ce contact familial. Et il a peur, en fait, il a peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui refuse l'émotion. Donc en fait, plus ça va, plus il va se concentrer sur son travail, moins il va se lier aux autres. Là, au début, il crée une sorte de famille avec les autres astronautes. Mais ça aussi, au fur et à mesure, il va le dégager. Parce que c'est un personnage qui a besoin pour réussir, pour donner du sens, pour retrouver un sens et progresser, de ne pas être emmerdé d'une certaine façon de ses émotions, puisqu'il ne peut pas les contrôler, il ne peut pas les gérer, il ressent trop. Donc j'aime beaucoup l'idée de ce personnage, la façon dont il le travaille, et on sait que Ryan Gosling, on dit toujours il n'a pas d'expression, etc. Bah, dans ce cas-là, ça marche plutôt bien, parce que c'est un personnage qui n'est pas expressif, c'est un personnage qui refuse de communiquer. Donc je trouve que c'est une très belle vision, en tout cas, de Neil Armstrong. Je ne sais pas si elle est tout à fait réaliste, même si je sais que Damien Chazelle s'est beaucoup documenté pour faire le film. D'ailleurs,
c'est
le film
basé sur une biographie qui avait été écrite, co-écrite par Neil Armstrong, qui était plus ou moins une semi-autobiographie.
Mais donc le film, voilà, il a ce côté parfois presque pas documentaire, parce que les images sont pas du tout là-dessus, mais justement, et puis c'est un film qui est dans la sensation, dans le sensitif, parce que justement, autant le personnage lui refuse de ressentir, autant nous on va ressentir des choses, notamment la première lancée dans l'espace, qui n'est pas Apollo 11, hein, une première lancée dans l'espace où ils testent avec le raccrochage des wagons là. Mais j'ai pas les termes techniques, pardon, j'ai pas fait la NASA. Cette séquence-là, elle est absolument géniale. On ne sort quasiment pas de la capsule, on vit la capsule. Moi j'étais dans une salle tout tremblée, mais j'avais l'impression d'y être, j'étouffais, moi l'espace me terrorise. Donc en fait, je trouvais que il est complètement dans le sensitif, il est pas dans le spectaculaire non plus, parce qu'il cherche pas, c'est pas, je sais pas, n'importe quel film sur l'espace, mais il cherche pas à faire du spectaculaire absolument. Il est dans la sensation, et il y a quelques Enfin voilà, il y a quelque chose aussi. Ce que j'aime bien, c'est le background où il y a cette guerre des étoiles, il y a cette propagande. Clairement, il y a la propagande américaine contre la Russie, mais ce n'est pas le sujet de son film. Mais par contre, il peut pas l'enlever parce que c'est obligatoire. Ce programme a été fait dans ce sens de propagande. Et ce qui est intéressant, qu'il met bien en exergue que ce personnage de Neil Armstrong n'est pas là-dedans, ne joue même pas le jeu de ce truc-là. Il le joue quand il doit le jouer, c'est-à-dire en conférence de presse. Où moi, je pense que justement cette phrase, elle paraît tellement pas naturelle que pour moi, c'est une phrase balancée pour aller bien avec ses patrons, quoi. Alors qu'en fait, lui, il en a rien à taper. Il est pas du tout là-dedans. Il est dans une quête personnelle. Il est dans une quête d'émancipation personnelle. Une quête surtout de retrouver sens. Et c'est pour ça que le film m'a totalement touchée, totalement. Enfin, j'ai complètement été investie dans ce personnage et dans cette vision de l'espace comme. Une vision presque, oui, pas religieuse, mais pas loin. C'est-à-dire que d'un seul coup, là où certains trouveront un sens dans la foi, lui, il trouve un sens dans l'espace. Donc, je trouve que c'est un très, très bon film, après, un post-La La Land très bien, parce que justement, c'est plus lofi, c'est moins spectaculaire, c'est moins. Et justement, il prend un contre-pied, même dans sa mise en scène, dans le côté, c'est pas aussi coloré, c'est pas aussi. Voilà. Mais je pense que pour faire suite à La La Land, c'était un très bon point que de partir sur quelque chose de très différent, avec toujours ce personnage auto-centré qui refuse de ressentir.
Stéphane.
Bon, tout a été placé en fait pour avoir une grande idée générale du film en fait dans ce qu'a dit David, dans ce qu'a dit Perrine et tout. Donc voilà, moi mon ce que je, en rebondissant sur ce que dit Perrine, tout est vrai par rapport au personnage en soi. Moi j'ai juste en fait un problème avec le fait de représenter ce personnage effectivement de manière quasi autiste, on va dire, dans les années 2010 en fait, vraiment, c'est-à-dire plus que dans les années 60. Je pense que même si on n'a pas de, comment dire, forcément d'archives sur la façon dont ça pouvait être traité à l'époque, moi je trouve qu'il a un côté homme-enfant qui me pose un peu problème en fait, à la fois dans le jeu, mais bon, ça, enfin, c'est un problème avec Ryan Gosling de manière générale, c'est-à-dire que pour moi, justement, c'est pas tant le fait qu'il ait pas d'expression qui fait que ça rentre là-dedans, c'est que justement il devrait en avoir un tout petit peu plus, enfin un peu plus de subtilité en tout cas là-dedans, pour faire fonctionner ça. Et c'est en ça en fait que le personnage de Claire Foy. Fonctionne bien en fait, justement, et pas tant forcément en termes d'écriture effectivement comme le dit David, mais plutôt en termes d'avoir un vrai fil conducteur en fait sur quelle est la thématique du personnage, du récit, parce que lui il en parle jamais, il le montre jamais. C'est une scène au début, c'est une scène à la fin. Donc le truc c'est que ces moments en fait de danger, effectivement, ces moments où il se replie sur lui-même, en fait elle le vit pour le reste de la famille. Et donc, elle le vit pour le spectateur. Et du coup, c'est assez étonnant parce que moi, j'étais investi dans ces scènes-là, les scènes de ménage, on va dire, les scènes intimistes, jusque vraiment avoir été cueilli, non pas par la scène finale de l'alunissage, tu vois, et de tout ce qui se passe, quoi, mais vraiment, en fait, le tout dernier plan où je me suis dit, ah ouais, d'accord, là, l'émotion m'a prise, en fait, si tu veux, sans m'y attendre. Donc, je peux pas enlever ça au film. Littéralement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là, quoi. Le reste, c'est 2h20. Et le truc, c'est que c'est 2h20. Alors, moi, j'aime bien. Enfin, le truc, j'ai bien aimé Whiplash. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien La La Land, ça va. J'ai pas de problème majeur avec le film. C'est juste que j'ai jamais compris pourquoi on surélevait le travail de ce mec-là. Et je pense qu'avec celui-là, en fait, j'ai exactement le même problème. Mais qui, pour le coup, je commence à plus ou moins cerner ce qui me fait chier, moi, en fait, en tant que spectateur, c'est d'avoir quelqu'un qui est censé représenter plus ou moins le cinéma d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Il a failli avoir l'Oscar, il a été nommé, etc. Et qui change de style au fur et à mesure. Et alors après, ça, c'est peut-être personnel, hein. Moi, j'ai besoin de réalisateurs qui s'affirment, en fait, plutôt que qui s'effacent derrière leur sujet. Petite parenthèse, c'est pas son scénario à la base. Je crois que c'est une première, si je dis pas de bêtises en fait. Et c'était un film pour Clint Eastwood. Donc, en tout cas, c'est lui qui devait le faire. Vu le classicisme du film, j'ai envie de dire, j'aurais préféré largement avoir un Clint Eastwood sur ce film-là pour faire ressortir de toute façon, mais pour faire ressortir, je pense, ce qui aurait fonctionné dans l'émotion. Et le truc, c'est que.
Perrine veut te.
Mais c'est juste que tu parlais du style, et au niveau, je trouve que de la mise en scène, il y a quand même des choses similaires dans ce qu'il fait, et surtout, il a des reprises de scènes, des séquences, en fait. C'est-à-dire que dans Whiplash, par exemple, là, il y a le personnage de Miles Teller qui va se. travailler sa batterie au point de saigner, au point et au point de plus en pouvoir, mais de continuer quand même. Et à un moment, il y a une séquence comme ça dans First Man où il se retrouve dans un espèce de machin qui le secoue dans tous les sens, une sorte de centrifugeuse. Enfin, c'est une sorte de centrifugeuse. Et il va être pas bien, il va perdre connaissance. Et là où il va se remplacer, non, il continue. En fait, c'est toujours ces personnages qui vont trop loin. Enfin, il les filme de la même façon.
Justement, je trouve pas qu'il les filme de la même façon parce que ça, c'est thématique, si tu veux. C'est-à-dire, moi, ce que je retiens en tout cas quand je regarde Whiplash, et c'est là où je vois qu'il y a deux choses différentes, si tu veux. Et déjà, en fait, il y avait ce changement majeur entre Whiplash et
mais, la lampe, oui.
Mais disons que je me disais, bon, bah, il s'affirme, si tu veux, peut-être. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour moi dans Whiplash, c'est pas tant la mise en scène en soi que le montage. En fait, le montage est extrêmement efficace, et notamment dans ces scènes-là. Dans les scènes dont parle Perrine, en fait, les scènes où le mec se fait mal. Et justement, en fait, là, il me semble que c'est pas du tout monté de la même manière dans First Man, par la force des choses, mais aussi parce que, tout simplement, le type, en fait, a abandonné ça déjà avec La La Land, entre-temps. C'est-à-dire que La Land ne fonctionne pas de cette manière-là. La Land, c'est un film qui, pour moi, à défaut de raconter quelque chose de profond, le raconte, on va dire, de manière assez enlevée, quoi. Et donc, du coup, même s'il emprunte à, comment dire... Bah, tu vois qu'il emprunte à la fin d'Arizona Junior, à la fin de La La Land, même s'il fait des plans séquences qu'il a vus dans les autres comédies musicales, etc., etc. Tu peux pas enlever la maestria du truc, ça fonctionne, c'est enlevé, c'est joli, c'est chouette. T'es pris dans le film, quoi. Là, le problème que j'ai avec celui-là, c'est que oui, alors il y a une approche, une volonté réaliste qui est posée. Mais en fait, il y a un espèce de concept de mise en scène, et c'est ça qui m'a vraiment surpris de la part de Chazelle, pour le coup. C'est qu'en fait, il l'utilise plus comme un concept en soi que comme un vrai travail de mise en scène. C'est-à-dire, j'entends par là, découper les séquences, monter les séquences, travailler les séquences pour obtenir une émotion. Et ce concept de mise en scène, c'est ça se passe dans les années 60. Donc en fait, il y a un espèce de filtre 16 mm, tu vois, un peu étrange, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais vraiment, en fait. Et comme j'ai ce sentiment, alors encore une fois, oui, tout ce qui a été dit là est totalement valide, y compris avec ma vision du film. Mais comme j'ai ce sentiment, en fait, je veux dire ce qu'a dit David, ce qu'a dit Perrine, mais comme j'ai ce sentiment, en fait, que c'est pas son scénario, donc en fait, à un moment donné, le type s'est dit, bon, comment je me l'approprie, comment je vais faire le truc, à part quelques plans, il y a notamment une scène où il manque de se tuer, en fait, en faisant un essai où il s'écrase avec un parachute, où tu vois qu'il a travaillé un plan séquence, tout ça, etc., pour intégrer Ryan Gosling dans la scène, alors tu vois que c'est un cascadeur à la base, ce genre de petits trucs comme ça, où je pense qu'il a les moyens, en fait, il peut aussi se le permettre, parce que c'est un film à gros budget, à part ce genre de moment, c'est assez, moi je trouve ça assez plat, en fait, finalement. Et donc voilà, donc pour moi, l'émotion, en fait, elle est vraiment traversée par l'idée du personnage de Claire Foy, voilà, qui justement, en fait, moi je trouve ne sert pas, en fait, à rien, finalement, alors dans la logique de société de l'époque peut-être, mais dans la logique, en fait, d'unité familiale et d'unité émotionnelle pour le spectateur. Elle est là, effectivement, elle joue très bien. Moi je la connaissais pas non plus, apparemment elle va dans tous les films maintenant là, mais le truc c'est que
on va voir de plus en plus, effectivement.
Voilà, et le truc c'est que elle est surprenante, en fait, de gravité, là où justement, en fait, je trouve que Ryan Gosling en manque énormément, y compris dans cet éternel, parce que moi quand je regarde Neil Armstrong là dans ce film là, en fait, je vois le personnage de Drive, c'est-à-dire et c'est pas une question de d'icône physique ou de machin, c'est juste, en fait, une question de le regard perdu dans le vide et le
ils sont assez proches, mais justement le personnage
de Drive, pour le coup, c'est un personnage des années 2010, mais bien ancré et bien homme enfant et bien dans l'air du temps, quoi. Donc le problème, c'est que cette approche de l'air du temps sur ce sujet-là, c'est pas seulement que j'aurais préféré avoir Clint Eastwood sur ce truc-là, c'est que j'aurais préféré avoir quelqu'un qui a connu cette période-là et qui sait comment la traiter aussi, quoi.
Effectivement, je répète une partie de ce que tu as dit et qui me paraît vraiment important, c'est ce paradoxe, en fait, entre un choix esthétique qui, à mon sens, de manière artificielle, crée une ambiance visuelle années 60, qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on peut très bien traiter les années 60 avec un style visuel d'aujourd'hui, et qui est contrebalancé par une caractérisation du personnage qui est une caractérisation d'aujourd'hui et qui paraît un peu artificielle par rapport à ce qu'était a priori...
Et même, j'ai envie de dire, quand je parle de concept de mise en scène, c'est que j'oppose... par exemple, pour moi, et pour le coup, c'est quelqu'un qui a un vrai style à lui, mais même si, encore une fois, je ne le considère pas comme un réalisateur au sens vraiment formel du terme, c'est qu'il apporte en fait le film un peu comme Nolan aurait abordé son film à lui, c'est-à-dire qu'en fait il a un concept de, comment dire, de filmage, un concept de lumière, un concept de machin, et tout va passer sous ce prisme-là, et peu importe en fait si tu découpes derrière, peu importe si machin, tant que en fait t'as ce feeling-là général, et donc en fait t'as un film qui comme chez Nolan, en fait, un peu un espèce de, pour moi, hein, dans ce que j'apprécie au cinéma, un espèce d'encéphalogramme plat, où la meilleure séquence, en fait, ça sera la séquence la mieux écrite, finalement, etc. Et lui laisse un peu plus ressortir les émotions que Nolan, je trouve.
Bah oui.
Et, oui, non mais, encore une fois, par le personnage de Claire Foy, donc voilà, mais plus que par le personnage de... encore une fois, je peux... Dans tout ça, je comprends la logique du perso, c'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est plus, effectivement, le l'idée que on aurait fait ce film dans les années 70 par exemple, on l'aurait littéralement pas traité comme ça, parce que je pense tout simplement que les gens à l'époque, et ce n'est pas que par exemple la place de la femme dans la société, c'est aussi la place de l'homme dans la société, c'est encore un autre débat, mais le truc c'est que la place dans l'homme de société, c'est qu'il peut pas jouer ce genre de rôle d'homme enfant aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus alors qu'à cette époque là non, donc j'ai du mal, vraiment du mal à croire que Neil Armstrong était comme ça, et en ce sens là effectivement la réplique en soi elle matche pas, en fait, elle connaît pas, et c'est une réplique.
Un petit problème, ouais.
Elle est problématique, cette réplique, parce que c'est une des répliques les plus connues de l'histoire de l'humanité. Donc, le truc, c'est que, à partir de là, effectivement, avoir ce sous-régime, en fait, dans l'interprétation, et avoir cette grande phrase épique au milieu, alors que le reste. Par exemple, il y a un autre problème, moi, je trouve, dans le film, c'est la façon même si c'est un tout petit personnage secondaire, la façon de montrer Buzz Aldrin comme un trou du cul, quoi. De beauf et tout. Enfin, je trouve ça hallucinant.
C'est drôle.
C'est drôle, mais en même temps, c'est tellement pas fin.
C'est plutôt sympa, en plus, la manière dont il l'amène dans le film. C'est-à-dire qu'il est là quasiment depuis le début, mais tu sais pas que c'est Buzz Aldrin. Et depuis le début, il est là, il est dans le coin, il zone, le gars. Et en fait, d'un seul coup, tu découvres que c'est Buzz Aldrin. Moi, ça m'a beaucoup amusé, ce truc-là. Parce que tout le long, je me suis quand même posé la question, pendant tout le long du film, il est où, bordel, Buzz Aldrin? C'est juste que quand il débarque, moi, j'aime beaucoup. Mais je suis pas, j'avoue que moi le filtre dont vous parlez m'a pas du tout choqué dans le film. Je trouve qu'au contraire, il y a ce prisme années 2010 sur les années 60 et notamment sur cette manière de parler des femmes, parce que les femmes elles sont pas ultra présentes, mais elles sont là à des scènes clés. Très clé. Par exemple, quand il y a un des personnages qui meurt et qu'il y a sa femme en face qui zone face à une voiture parce qu'elle ne sait plus où elle en est, elle n'arrive plus à se définir parce que c'était difficile de se définir dans cette époque-là. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que la fin, quand Claire Foy reprend plus d'importance qu'elle n'en a eu sur le reste du film, c'est là où moi elle m'intéresse le plus en soi, parce que je trouve qu'il, malheureusement, il la traite pas toujours très bien. Mais je trouve que c'est plutôt. Enfin, moi, ce n'est pas un problème, ce prisme 2010 sur les années 60, et je ne trouve pas qu'il est en accord. Il n'est pas en train de dire que c'était bien ce qui se passait dans les années 60. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Ça donne l'approbation. Je dis, ben non, pas du tout. Donc non, au contraire, il est en train de faire un constat de ce qu'étaient les années 60, qui n'était pas forcément positif pour tout le monde, et avec, voilà, c'est-à-dire de potentiellement dire, Neil Armstrong, il était un petit peu... Cet
bizarre,
homme perdu.
Hein, un peu bizarre ce garçon. Avant de se quitter les amis, comme toujours et comme l'exige la tradition millénaire dans cette émission, une petite tournée de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester évidemment dans le domaine de l'exploration spatiale, puisqu'on l'a dit, il y a de la matière, mais comme toujours vous êtes totalement libre. Stéphane.
Bah, Armageddon. Tu le savais.
Tu coupes l'herbe sous le pied de Périne, c'est dégueulasse.
T'en as une autre, t'auras
pas fait Armageddon. Okay,
Armageddon, le plus grand film de conquête spatiale de l'histoire de l'humanité. Ouais. Avec zéro classicisme pour le coup, mais littéralement, c'est-à-dire que quand t'es dans l'espace, tu comprends rien. Enfin, moi, il y a littéralement une scène dans ce film qui est la scène de la destruction de la station Mir quand ils vont faire le russe. Je déconne pas, j'ai le Blu-ray chez moi, j'ai tout, je l'ai maté, je sais pas combien de fois cette scène, je ne comprends rien ce qui se passe. Je ne comprends littéralement rien ce qui se passe. Il y a un mec en fait qui fait tomber une vis, ils font merde, ça va péter, tout le monde se met à courir, c'est n'importe quoi, et ça pète. Parce qu'il y a une vis qui est tombée. Donc c'est super space comme film, mais c'est super space comme scène,
mais
Bruce Willis est magnifique dedans, il est beau, il est bleu, il est vert, il est jaune et tout. Et puis c'est Michael Bay. À son zénith. Voilà, t'as envie de dire, tu vois, donc très très beau film.
Chef-d'œuvre.
Pas du tout classique. Alors si, et en fait, je vais faire une deuxième reco parce que merde, tu vois, parce que Clint Eastwood aurait dû faire Farman et j'aurais préféré, voilà.
Space Cowboy.
Donc allez voir. Non, parce que je l'ai déjà faite. Donc allez voir la bande-annonce de The Mule parce que là, en fait, ça a l'air magnifique. Je sais pas, tu vois, c'est quand même pas compliqué le cinéma, tu vois, tu te filmes Clint Eastwood, tu vois, et que la gueule un peu en sang, il se tourne vers toi, il a le regard comme ça, perdu, tu vois, mais acéré, tu vois, et il y a sa petite voix rédemptrice qui te dit je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, et tu fais, oh non Clint, tout va bien, il s'est excusé pour 15h17 et c'est bon, on revient au cinéma, quoi. Donc non, c'est... Voilà, Clint et Michael.
Et puis voilà. Michael, voilà. Les deux mamelles de Stéphane Moïse.
Exactement, le cinéma.
Le cinéma. David.
Moi, j'ai une triple recommandation.
Périne en avoir quatre après, puis Quentin en fera cinq, et puis voilà. Fin...
Non, la première, très rapide, c'est juste un truc dont je voulais parler dans l'émission, non, j'ai pas eu le temps. Une des difficultés auxquelles il a dû faire face, c'est qu'il fait face à un univers visuel extrêmement balisé par plein de films. Bien sûr. Et notamment, on trouve du coup dans le film les séquences un peu clichés des mecs qui boivent des bières dans le jardin en regardant la lune, qui en même temps sont nécessaires au film. Et voilà. Et pour moi le meilleur film pour montrer ça, pour montrer les astronautes qui regardent la lune dans leur jardin en buvant de la bière avant d'y aller, c'est Mission to Mars. Tout le début de Mission to Mars, à ce niveau-là, dans la caractérisation des personnages, dans la manière de montrer l'équipe en train de se constituer, les rapports entre les membres de l'équipe. Cette séquence est exceptionnelle. Après, le film a quelques problèmes sur la fin,
petit, oui.
Mais que moi je trouve complètement défendable. Enfin, pour moi, c'est un très bon film, mais le début est extraordinaire. Donc, faut voir au moins les séquences de début de Mission to Mars. Ensuite, je voulais parler alors aussi d'un podcast. C'est un podcast très connu de NPR, ça s'appelle The American Life. Oui. Et il y a un épisode sur Frank Borman, qui était un astronaute. Alors on le voit un petit peu dans le film, il était dans la mission Apollo 8, c'était le commandant d'Apollo 8, et c'est la première mission qui fait le tour de la Lune, en gros, et donc qui a pris les premières photos du lever de terre, etc. Oui. Et ce mec, en fait, on le découvre dans le podcast, c'est super intéressant parce qu'il s'en fout complètement des étoiles, quoi. Le côté romantique d'aller dans l'espace et tout, je trouve ça complètement con. Il a jamais vu 2001 l'Odyssée de l'espace, ça le fait chier et tout ça. Et il raconte que lui, il adore sa femme et sa fille, et il était motivé par les missions parce qu'il voulait faire la nique aux Russes, que le truc qui l'a le plus bouleversé en allant dans l'espace, c'est de voir la Terre et d'avoir envie d'y rentrer. Et je trouve que cet angle et ce personnage est assez intéressant, et ça vaut le coup. Je crois dans l'épisode du podcast, c'est une histoire parmi d'autres, et ça dure pas très longtemps. Je vous invite à écouter ça. Et j'avais une dernière reco, puisque j'avais dit une triple reco.
C'est vrai.
Tu
l'as dit, tu l'as promis.
J'ai promis une triple reco, et c'était quoi? Eh ben, si je m'en souviens pas, je vais laisser Perrine, et si je retrouve ma troisième, je ferai... Putain, c'est trop de suspense.
Trop de suspense. Perrine.
Je suis pas du tout dans la conquête spatiale, d'accord, mais c'est un documentaire qui m'a fait l'effet de 2001 de l'Odyssée de l'espace, et donc cette espèce d'introspection que j'ai aussi ressentie en regardant le film, où ça allait chercher des choses très à l'intérieur. Et c'est un documentaire qui s'appelle Into Eternity de Michael Madsen, rien à voir, pas le même. Et c'est un film sur la traite des déchets nucléaires. Voilà. Okay. Et qui t'explique que, en fait, en Norvège, je crois, enfin, on est en train de construire à 5 km de profondeur un endroit pour stocker les déchets nucléaires, et on va le refermer. Et la question du documentaire, c'est, il ne faut pas ouvrir cet endroit pendant 100 000 ans, parce que ça met 100 000 ans à se dégrader. Ouais. Et comment on va dire aux gens de ne pas ouvrir la porte pendant 100 000 ans? Et au début, tu te dis, bah, c'est simple, vous mettez un panneau, les gars. Et le mec, limite, le documentaire t'entend le dire, et il fait... Alors, vous avez pensé à un panneau? Eh ben non, parce que 100 000 ans, notre humanité, elle a 10 000 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé en 10 000 ans? Alors, imaginez x10. Et là, tu fais, oh mon Dieu! Et là, t'as plein de chercheurs avec des diplômes derrière eux qui sont en train de te dire, je sais pas. Tu finis recroquevillé en train de chialer et dire, on va tous mourir. Et c'est à peu près l'image que ce que j'ai ressenti. Pas. Mais le film a quelque chose de, en plus, la manière dont il est mis en scène, très stylisé, très théâtral, notamment de la part du réalisateur, te met dans une position d'angoisse absolue, comme 2001 l'Odyssée de l'espace. On sent la menace sourde, on sent quelque chose qui monte, et on sent, et ça nous pousse à réfléchir à l'intérieur de nous, d'aller chercher des choses très intérieures. Et c'est pour ça que le film m'a, à plusieurs moments, renvoyé vers ce documentaire, qui, encore une fois, n'a rien à voir, puisque c'est le nucléaire, quoique. Mais voilà, et je vous encourage à le voir, avec un peu de glace pour que ça passe, parce que c'est un peu dur en fait. On n'est pas bien à la fin.
Into Eternity.
Into Eternity.
De Michael Madsen. David, tu as retrouvé ta troisième reco.
Ouais, j'ai retrouvé. Donc en fait, c'est une reco avec un point d'interrogation, parce que en fait, c'est une série dont.
Une reco.
C'est une série dont j'ai pour le moment vu. Pour le moment, vu simplement le pilote qui arrive bientôt sur OCS, s'appelle The First, et c'est avec Sean Penn, et c'est sur la conquête de Mars, en fait. Donc ça se passe dans un futur proche, et en fait, une société en collaboration avec la NASA prépare une mission pour envoyer des humains sur Mars. Il se passe dans le pilote un truc. Et j'ai vu le pilote. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais bon, vous en doutez, hein, ça se passe pas très bien.
Ça se passe mal.
Et voilà, c'est un peu intriguant. Et
il retrouve Matt Damon qui faisait pousser des patates avec son caca. Enfin, c'est l'enfer.
Il y aura peut-être quelque chose comme ça. C'était pas trop mal, et ça commence. Voilà, ça va passer sur OCS courant octobre. C'est très bientôt.
Très bien, très bien. The First, hein, on a dit The First. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Quentin, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français. On peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.